Bienvenue dans le débat. Imaginez un peu une usine d'embouteillage ou une chaîne d'assemblage automobile qui est complètement à l'arrêt.
Ah oui, le genre de situation où chaque minute de silence coûte quoi, des dizaines de milliers d'euros.
Exactement. Et là, le problème, il n'est pas mécanique. Il n'y a pas de moteur qui fume, pas d'engrenage brisé sur le sol. C'est juste un simple capteur qui ne communique plus.
Un zéro qui refuse obstinément de devenir un 1.
C'est ça, un zéro bloqué dans le cerveau électronique de la machine. Et face à ce silence super angoissant, vous avez un jeune technicien de maintenance, les mains complètement moites, qui ouvre son ordinateur pour se connecter à l'installation.
Et juste pour donner un peu de contexte à ceux qui ne vivent pas dans ce monde industriel au quotidien, on ne parle pas ici de réparer un ordinateur de bureau, hein.
Non, bien sûr.
On parle vraiment des automates programmables industriels, et particulièrement des séries Siemens S7, les 300 et 400. Ce sont des armoires électriques massives, des véritables cerveaux industriels qui gèrent des milliers d'entrées et de sorties simultanément, quoi.
Ouais, ils contrôlent des températures de four chimiques, des robots de soudure, des systèmes de sécurité vitaux. Donc l'enjeu est colossal.
Tout à fait.
Et c'est justement ce qui rend notre discussion d'aujourd'hui si cruciale. On va analyser ensemble le programme détaillé de la formation Automate Siemens S7 Maintenance.
La formation dispensée par Altia Formation, située à Iwi.
Voilà. C'est un document fascinant parce qu'il nous oblige à nous poser une question fondamentale sur la pédagogie en milieu industriel. Si on adopte le point de vue d'un technicien de maintenance expérimenté, disons, vous ou moi qui dois encadrer un total débutant, quelle approche garantit la meilleure transition vers l'autonomie sur le terrain ?
À la vraie question, oui.
Est-ce qu'il faut exiger du novice l'acquisition d'une rigueur analytique profonde, donc maîtriser le logiciel avant toute action, ou bien la priorité était de lui enseigner d'abord les interventions pratiques, les contournements pour établir la production dans l'urgence ?
C'est le fossé classique, en fait. Le fossé entre la théorie architecturale du système, très carré, et l'instinct de survie pur et dur de la ligne de production.
Exactement. Donc, pour clarifier nos positions respectives dès le départ, je soutiendrai que la véritable expertise se transmet par une maîtrise absolue des outils de diagnostic du code, une compréhension vraiment intime de l'architecture logicielle de l'automate.
Et de mon côté, je défendrai l'idée que le technicien débutant doit avant tout assimiler les actions de forçage matériel, les interventions directes pour débloquer une situation en temps réel. C'est ça la priorité. L'industrie ne paie pas des techniciens pour écrire des thèses sur la structure des données, elle les paie pour que les convoyeurs tournent. Point.
Très bien, alors plongeons dans ce programme. Quand je regarde ce syllabus de 4 à 5 jours, avec mes yeux de technicien chevronné, j'y vois une méthodologie extrêmement stricte.
Ah bon ?
Oui, le document insiste d'emblée sur l'utilisation du logiciel Siemens Simatic Manager. Et pas comme un petit outil de bidouillage, hein, comme un véritable microscope.
Un microscope, carrément.
Prenez la notion de comparaison hors ligne et en ligne qui est mentionnée dans le cours. C'est fondamental. Avant même de toucher à quoi que ce soit, le jeune technicien doit comprendre que le programme qui est sur son ordinateur portable, donc le hors ligne, n'est peut-être pas la copie exacte de ce qui tourne actuellement dans le cerveau de la machine.
Oui, le fameux programme en ligne.
Voilà. Peut-être qu'un collègue de l'équipe de nuit a fait une modification d'urgence à 3h du matin, sans sauvegarder sur le serveur. Si j'apprends à mon débutant à intervenir sans vérifier cette différence, il risque d'écraser le programme actif et de créer une catastrophe. La transmission du savoir, pour moi, c'est d'abord transmettre cette patience de l'analyse préalable.
Je vois l'idée, mais je suis désolée, j'aborde la question d'une toute autre manière. La patience, c'est un luxe de bureau d'études.
Un luxe ?
Oui. Sur le terrain, face à un chef de production qui voit ses quotas s'effondrer minute par minute, la pression est viscérale. Le pragmatisme doit primer. Et ce qui me frappe dans ce plan de cours, ce sont plutôt les outils tactiques de survie.
Comme quoi ?
Le document mentionne explicitement la table de forçage permanent. Et comprenons bien ce qu'est un forçage. Si un capteur physique est détruit en bout de ligne et qu'il faut, disons, 2 heures pour le remplacer, l'automate, lui, il refuse d'avancer parce qu'il attend le signal de ce capteur.
Logique.
La table de forçage, ça permet au technicien de dire au logiciel « Ignore la réalité physique, je t'ordonne de considérer que la porte est fermée. C'est un contournement direct du système nerveux de la machine. C'est hyper puissant et surtout c'est immédiat. Apprendre à un débutant comment utiliser ça pour relancer temporairement une usine, c'est ça lui apprendre son vrai métier. La théorie de la comparaison de fichiers, c'est secondaire par rapport à l'acte de débloquer la machine.
Je comprends pourquoi vous pensez cela. L'urgence est réelle. Mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur ce fameux forçage. Vous ne pouvez pas utiliser la table de forçage de manière isolée. C'est de l'inconscience. Et c'est précisément pour ça que le programme insiste tant sur les références croisées.
Les références croisées prennent du temps.
Peut-être, mais qu'est-ce que c'est dans le Semantic Manager ? C'est l'outil qui vous dit partout où une adresse mémoire spécifique est utilisée dans l'ensemble du programme. Si vous forcez un capteur en un sans lire ses références croisées, vous réglez peut-être le problème du convoyeur A, super, mais vous ignorez que ce même capteur sert de condition d'arrêt d'urgence pour le bras robotique B qui est situé 10 mètres plus loin. Modifier une variable sans cette analyse, c'est comme décider d'abattre un mur dans une usine parce qu'il gêne le passage de votre chariot sans avoir consulté les plans d'architecte.
C'est un peu extrême comme comparaison.
Pas du tout. Imaginez s'il soutient le toit de l'étage supérieur, c'est de l'inconscience pure. C'est pour cela que l'analyse du code doit absolument précéder l'action.
Je suis désolée, mais je n'adhère pas à cette vision paralysante. Si on pousse votre logique jusqu'au bout, le technicien de maintenance devrait avoir le même niveau d'expertise intellectuelle que l'ingénieur qui a conçu la machine. Ce n'est ni réaliste, ni ce que propose cette formation d'ailleurs.
Ah bon ?
Regardez les prérequis exigés par Altia Formation. On demande seulement, je cite, « des connaissances des automatismes et avoir les bases de l'utilisation d'un micro-ordinateur ». On ne recrute pas des développeurs logiciels, quoi.
Certes, mais...
Et regardez les langages abordés. Le cours mentionne l'écriture d'un programme simple en langage contact ou langage ladder. Pourquoi le langage ladder à votre avis ?
Parce que c'est visuel.
Exactement. Parce que c'est purement visuel. C'est conçu pour ressembler à un schéma électrique traditionnel avec des contacts normalement ouverts, des bobines. Quand on utilise la fonction visu-dynamique, le jeune technicien voit littéralement le courant, représenté par une ligne verte à l'écran, traverser les composants logiques.
Oui, la fameuse ligne verte.
Voilà. S'il voit que la ligne verte s'arrête net devant le symbole d'une porte de sécurité, il sait que c'est là que ça coince. L'approche est visuelle, elle est mécanique, intuitive. Le but n'est pas d'analyser toute l'architecture de la maison, mais juste de trouver quel interrupteur est éteint.
Le langage ladder est visuel, c'est indéniable. Et c'est très utile pour un petit réseau simple, je ne conteste pas son côté pédagogique. Mais enfin, la réalité d'un Siemens S7-300 ou 400 dans une usine moderne, ça dépasse très largement la métaphore de l'interrupteur, vous le savez bien.
Ça dépend des pannes.
Le syllabus mentionne l'analyse de réseau avec la fonction timer, les compteurs, et surtout, et là c'est le point clé, l'analyse des appels de routine, avec et sans passage de paramètres. Là, on n'est plus du tout dans un schéma électrique de base.
C'est sûr que ça se complique.
Le passage de paramètres, ça veut dire qu'un bloc de code générique est réutilisé genre 50 fois pour 50 vannes différentes. Et les variables changent de nom dynamiquement. Le langage visuel ne vous sauvera pas ici. Si le technicien expérimenté n'apprend pas aux débutants à tracer ses paramètres à travers les différents blocs de données de l'automate, votre ligne verte du langage ladder, elle ne lui indiquera rien du tout. Il sera complètement aveugle.
Bon, je ne nie pas la complexité des blocs paramétrés. Mais honnêtement, je pense que vous surévaluez la fréquence à laquelle un technicien standard doit les disséquer lors d'un dépannage de crise.
La plupart des pannes sont périphériques, elles sont pas centrales.
Périphérique, c'est vite dit. Mais si, abordons un autre point du programme par exemple. Les interventions sur le matériel annexe. Le document d'Altia détaille longuement le remplacement d'un pupitre avec sauvegarde et restauration via WinCC Flex. Le pupitre, c'est l'écran tactile, l'interface homme-machine.
Oui, l'IHM.
Exactement. Si cet écran meurt à cause d'un choc ou de la poussière industrielle, l'opérateur de la machine est aveugle. Échanger cet écran ne demande pas de comprendre les appels de routine de l'automate SCADA, ça demande de la rigueur opérationnelle. Connecter une carte mémoire, flasher le bon firmware, recharger le projet WinCC de secours.
Oui, c'est vrai.
C'est une pure intervention de technicien de terrain. C'est physique, c'est direct, et c'est ce qui remet l'usine en marche. C'est vraiment cette dimension pragmatique de la maintenance que le formateur doit insuffler en priorité.
Alors, remplacer un pupitre est en effet une intervention matérielle, je vous l'accorde. Mais même là-dedans, le logiciel reste roi.
Comment ça ?
Si vous chargez la mauvaise version du projet sur le nouvel écran, il communiquera avec les mauvaises adresses de l'automate et vous allez juste créer une nouvelle série de pannes. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de communication, arrêtons-nous sur un module vraiment crucial du syllabus, les réseaux.
Ah, le fameux Profinet.
Voilà. Le document insiste sur le diagnostic module ET200 sous Profinet et liaison Profibus DP. Et là, le langage ladder est totalement inopérant face à une panne réseau.
Profinet, c'est le système nerveux haut débit de l'usine.
C'est vrai que c'est un autre niveau.
Pour diagnostiquer une défaillance de communication entre le cerveau S7 et un module distant, il faut comprendre les adresses IP, les noms d'équipement, la topologie du réseau, les temps de rafraîchissement. Là, on fait de l'ingénierie réseau. Utiliser l'analogie visuelle ici, c'est comme essayer de réparer le système de gestion des feux tricolores d'une grande ville en regardant simplement si l'ampoule d'un feu spécifique est grillée. Vous ne comprenez absolument pas le flux des données.
L'analogie du trafic routier illustre bien la complexité, là je vous l'accorde. Mais le diagnostic Profinet nécessite un vrai saut intellectuel. Mais regardez la méthode EI. Regardez comment Altia Formation aborde cet apprentissage complexe.
Par la pratique, je suppose.
Et du saxement. Ils ne font pas asseoir le stagiaire devant un tableau blanc pendant 2 jours pour théoriser l'adressage IP. La pédagogie est tout autre. Les moyens pédagogiques du document décrivent des simulateurs d'automates S7, des modules ET200 et un logiciel de simulation de process.
C'est du matériel didactique classique.
Oui, mais pourquoi? Parce que l'apprentissage du réseau pour un pro de la maintenance, ça ne passe pas par des formules mathématiques. Ça passe par l'expérience de la casse. On débranche virtuellement un câble Profinet. On voit le voyant rouge BusFold s'allumer sur la maquette et le formateur montre au stagiaire comment le tampon de diagnostic de l'automate enregistre cet événement.
C'est une bonne chose, oui.
L'approche est résolument empirique. On part toujours du matériel en défaut pour remonter au logiciel, jamais l'inverse. C'est la seule façon de désacraliser des concepts complexes pour un public dont la préoccupation première, je le rappelle, reste l'outil de production.
Bon, l'utilisation de simulateurs est en effet une excellente approche pédagogique, je ne dis pas le contraire. Mais je ne suis vraiment pas convaincu que cela diminue l'exigence d'une pensée systémique. D'ailleurs, j'aimerais soulever un aspect du programme où l'empirisme trouve ses limites absolues.
Lequel ?
La section dédiée au safety, la sécurité. Le document indique très clairement qu'il faut savoir identifier les cartes de sécurité et lire le programme de sécurité.
Oui, les fameux blocs jaunes.
Exactement. Dans un environnement Siemens S7, le programme Safety gère les barrières immatérielles, les boutons d'arrêt d'urgence, les interverrouillages des portes. Ce code, il est protégé par des mots de passe stricts et des signatures cryptographiques temporelles. Il tourne en parallèle du programme standard, avec ses propres règles d'exécution qui sont inviolables.
C'est très encadré, oui.
Face à un défaut safety, le bricolage pragmatique est proscrit. Vous ne pouvez pas forcer un arrêt d'urgence. Le jeune technicien doit impérativement adopter une posture d'analyste. Il doit comprendre pourquoi le système de sécurité s'est verrouillé, sinon l'automate refusera de redémarrer, peu importe le nombre de pièces que vous changez physiquement. Dans le domaine de la sécurité, la méthode et la compréhension de l'architecture logicielle sont les seules voies possibles.
Alors le safety est effectivement le domaine où la rigueur est non négociable, on est d'accord, car des vies humaines sont en jeu. Je ne conteste pas la sévérité du sujet. Cependant, le document précise bien lire le programme de sécurité. Il ne dit pas modifier ou concevoir.
C'est vrai ?
L'objectif, ça reste le dépannage. Si un arrêt d'urgence est défaillant, le logiciel sert à localiser lequel parmi les 50 présents dans l'usine pose problème. Une fois localisé sur l'écran, l'action redevient immédiate. Le technicien prend son multimètre, va tester le contact physique du bouton et change le bouton. Le logiciel, même complexe, ça reste un indicateur de direction. Une simple boussole, certes très sophistiquée.
Mais que dit la section suivi et évaluation du document ?
Je vois où vous voulez en venir.
Elle exige une...
évaluation entrée, une évaluation sortie sous forme de QCM. Un questionnaire à choix multiples.
Un QCM ? Vraiment, c'est votre argument ?
Bah oui.
Un outil d'évaluation académique classique ? Ça démontre de manière irréfutable que le métier exige l'acquisition d'un corpus de connaissances théoriques strictes. Laissez-moi vous donner un exemple concret.
Allez-y.
Il existe dans les automates Siemens ce qu'on appelle le mémoto de cadence. C'est un octet spécifique dans la configuration matérielle du processeur qui permet de faire clignoter des voyants à différentes fréquences, par exemple 1 Hz ou 2 Hz, sans avoir à programmer le moindre timer.
Oui, le clock memory.
Exact. Si un débutant ne connaît pas ce concept théorique et qu'il doit dépanner un voyant qui ne clignote plus, il va passer 3 heures dans le Simatic Manager à chercher un bloc de temporisation dans le code qui n'existe tout simplement pas. On ne peut pas deviner l'existence du même auto de cadence par simple instinct pratique ou en manipulant un capteur. C'est un pur savoir architectural qu'il faut valider théoriquement et c'est à ça que servent ces QCM. Le transfert de connaissances de l'expert vers le débutant, c'est in fine un transfert de concept validé.
Bon, je comprends l'utilité du QCM pour certifier l'acquisition d'une notion pointue comme le même auto de cadence. D'accord, mais soyons honnêtes, le QCM est aussi une nécessité administrative et normative de la formation continue en France. Il faut bien prouver le retour sur investissement aux ressources humaines.
Oui, certes, Mais...
Mais ne confondons pas le thermomètre avec la température. Ce qui transforme réellement le débutant, ce n'est pas l'examen écrit, c'est l'organisation même de la session. Le document précise que la formation se déroule pour 1 à 4 stagiaires. C'est du micro-groupe.
C'est très intimiste, oui.
C'est la définition même du compagnonnage industriel. Le formateur n'est pas un professeur derrière un pupitre. Il est positionné exactement comme notre technicien expert imaginaire, derrière l'épaule du stagiaire. Quand il réalise les exercices d'entraînement au diagnostic, le formateur laisse le stagiaire faire l'erreur sur le simulateur, il le laisse forcer la mauvaise variable, il le laisse constater que l'installation virtuelle s'arrête, et ensuite, seulement ensuite, ensemble, il corrige.
Apprendre par l'erreur.
Exactement. La pression de l'action, l'erreur concrète et la manipulation physique de la console de programmation forgent des compétences bien plus profondément ancrées que la mémorisation d'un QCM. Le pragmatisme de l'intervention est le véritable moteur de l'apprentissage.
Vous avez raison de souligner la puissance du modèle de compagnonnage en petits groupes. C'est un cadre idéal pour l'assimilation. Et à la lumière de notre échange, cela m'amène à consolider ma position fondamentale.
Je vous écoute.
Pour qu'un débutant survive à long terme dans l'écosystème Siemens S730 et 400, l'expert qui l'encadre doit impérativement lui transmettre une méthodologie analytique sans faille. Comprendre la criticité de la comparaison hors ligne en ligne, naviguer dans le labyrinthe des références croisées, identifier les paramètres des appels de routine et surtout respecter le caractère sacré des cartes de sécurité. Cette fondation intellectuelle et structurelle, c'est la seule chose qui empêchera le jeune technicien de devenir un danger pour l'installation, par exemple lorsqu'il sera confronté à une panne réseau intermittente sur un module Profinet que la simple intuition ne peut pas résoudre.
Eh bien, de mon côté, je suis convaincue et je maintiens fermement que l'architecture est peut-être la destination, mais le pragmatisme est la seule porte d'entrée valable. L'apprentissage par l'intervention directe, l'utilisation de la visu dynamique pour localiser visuellement un blocage, la capacité à restaurer un pupitre WinCC en urgence et le maniement tactique de la table de forçage permanent pour contourner un défaut matériel, ça reste les compétences vitales.
Vitales, oui, dans l'immédiat.
Sur le sol de l'usine, la priorité absolue, c'est le maintien en condition opérationnelle. Un débutant qui sait remettre une ligne en marche en 10 minutes, même s'il ne connaît pas parfaitement chaque subtilité de l'adressage mémoire, il a compris l'essence même de sa mission de technicien de maintenance.
Vous savez, il est quand même intéressant de noter que le programme d'Altia Formation, tel qu'il est construit sur ces quelques jours, réussit la prouesse de marier nos deux philosophies.
En effet, oui. L'utilisation systématique des maquettes ET200 et des simulateurs de process offre un compromis assez exceptionnel. Les stagiaires peuvent expérimenter l'urgence, les pannes réseau et l'utilisation des outils de forçage de manière totalement pragmatique, mais dans un environnement confiné.
Sans rien casser.
C'est ça. Cet environnement virtuel les oblige à utiliser la rigueur analytique du logiciel Simatic Manager sans le risque terrifiant de casser une véritable machine de production et de coûter des millions à l'entreprise.
Ce qui nous ramène à la réalité du terrain. Le métier de technicien de maintenance ne sera jamais monolithique. Il nécessitera toujours cet équilibre subtil et constant. Face à une ligne arrêtée, l'expert doit savoir jongler entre la nécessité brûlante de la réparation immédiate et la froideur méthodique de l'analyse logicielle.
C'est un exercice d'équilibriste.
Complètement. D'ailleurs, le document nous indique clairement que cette formation de maintenance n'est qu'une étape. Il suggère une évolution vers la formation automate Siemens S7 Expert pour ceux qui devront aller encore plus loin dans les concepts, prouvant que l'apprentissage des automatismes, c'est un voyage sans fin.
Absolument. La maîtrise d'un tel environnement industriel complexe ne s'acquiert pas en une petite semaine. C'est l'œuvre de toute une carrière d'intervention, d'erreurs et de diagnostics réussis.
Face à l'immensité invisible d'un programme d'automate, la vraie question pédagogique demeure. Quand vous prenez un novice par la main à l'entrée de ce labyrinthe géant, par quoi commencez-vous? L'asseyez-vous devant les plans architecturaux de chaque couloir en exigeant qu'il mémorise la structure avant de bouger au risque de le paralyser par la complexité?
Ou bien lui mettez-vous une lampe torche entre les mains pour l'encourager à avancer dans l'obscurité, à toucher les murs et à apprendre en trébuchant au risque de déclencher un piège?
C'est le dilemme éternel de la transmission du savoir en milieu industriel. À vous, chers auditeurs, d'en tirer vos propres conclusions pour la formation de vos équipes, car il y a encore tant à explorer dans ce domaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion et à très bientôt.